Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue aux amateurs de sport, édition du vendredi 13 juillet. Bon début de week-end, bon début de vacances si ça commence pour vous immédiatement. Donc, on est là pour vous accompagner jusqu'à 20h30. Émission fort chargée. On aura la chance de parler entre autres Alexandre Tagliani qui sera avec nous. Vous savez qu'il fait un retour du côté des camionnettes en NASCAR. Ça se passera au mois d'août. Il sera avec nous aux alentours là, de 19h20. On parlera à Vincent Destouches qui viendra nous parler de la Coupe du Monde. Jérémy Filosa sera là également parce que vous savez que l'Impact affronte San Jose. Ça se passera demain. Hélène Pelletier viendra nous parler d'un match marathon 6h30 du côté de Wimbledon. Je vous rappelle, Marc-André Fleury, contrat de 3 ans, prolongation de 3 ans, 21 millions avec les Golden Knights de Vegas. Mais ce qui retient l'attention, évidemment, c'est cette finale de la Coupe du Monde. Ça se passera dimanche. La Croatie qui va affronter la France. On en parle directement de la Russie avec Arcadio Marcuzzi qui est avec nous. Salut, Arcadio.
Salut, Jérémy.
Arcadio, c'est le moment pour parler de cette grande finale qui aura lieu dimanche. La Croatie qui va affronter la France. Dans un premier temps, avant qu'on parle des forces en présence, il faut regarder un peu dans l'histoire de ces deux pays pour voir à quoi ça ressemble les affrontements entre les deux formations. Et là, je lisais un peu partout, Arcadio, on met beaucoup l'emphase sur ce duel entre la Croatie et la France en 98, où la France l'avait emporté et avait remporté d'ailleurs la Coupe du Monde.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on célèbre le 20e anniversaire de ce sacre des Bleus à leur Coupe du Monde de 98, donc c'est vrai que les souvenirs sont assez vivants cette semaine par rapport à cette rivalité ou ce duel Croatie-France. Donc voilà un duel de 98 qui avait vu la France se qualifier pour la grande finale face au Brésil, finale qu'elle a remportée 4 jours plus tard pour sa première Coupe du Monde. Une Croatie qui avait fait un superbe parcours. Et la France, d'ailleurs, la Croatie avait marqué le premier but dans ce match et la France était revenue de l'arrière avec 2 buts de Liliane Thuram pour l'emporter. Donc, vraiment, une histoire, en tout cas, qui un match très excitant, un match qui est passé à l'histoire. Et on aimerait bien revoir ce type de rencontre dimanche ici à Moscou.
Dis-moi, Arcadio, est-ce que dans les formations actuelles, on tient compte de ça, de ce qui s'est passé en 98? Ou, écoute, j'imagine qu'on a tourné complètement la page là-dessus, là.
Ah ouais, moi je pense que du côté autant du côté des entraîneurs que du côté des joueurs, on ne regarde pas du tout ce qui s'est passé. Ça n'a aucune influence. Ça c'est surtout pour nous, pour nous qui aimons suivre le sport, les histoires qui en découlent, pour les supporters aussi, pour se donner peut-être un petit peu de confiance avec justement le poids de l'histoire. Mais je pense que sinon pour les joueurs, eux ils sont focusés dans le maintenant. Aujourd'hui, ils ont l'esprit à 100% déjà placé sur ce duel de dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Je pense que c'est le cadet de leurs soucis en ce moment.
Bon, Arcadio, explique-moi une chose. Comment un pays d'à peu près 4 millions de personnes peuvent amener une formation en finale de la Coupe du Monde contre la France à 65 millions de personnes? Oui, je sais qu'il y a eu l'Islande, oui, il y a eu l'Uruguay, le Panama, mais c'est tout petit. Comment on arrive à générer autant de bons joueurs de soccer en Croatie?
Ben c'est la culture, hein. Quand un sport est populaire, on génère des joueurs et de qualité. Moi, je pense que la Croatie, elle est là non pas en raison de disons du support de la fédération, mais je te dirais plutôt malgré la fédération croate qui est gangrénée par énormément de corruption, qui n'est pas disons l'organisme le plus transparent qui soit. D'ailleurs, l'entraîneur-chef Zlatko Dalic est en place depuis seulement octobre dernier. Donc, ça donne une idée. Là, c'est pas un projet de longue haleine comme on peut avoir, par exemple, du côté de l'Allemagne ou des pays qui sont beaucoup plus organisés de ce côté-là. Donc, c'est vraiment à force de talent, à force de travail fort que cette équipe croate a réussi à se rendre où elle est aujourd'hui. Mais en termes de production de joueurs, c'est pas compliqué. On est passionné pour le sport. Et par exemple, quand on parle de hockey, ben il y en a beaucoup de petits pays qui sont des passionnés de hockey, ben, qui produisent de très belles équipes, de très beaux joueurs. La Croatie, c'est un petit peu ce type de parallèle qu'on peut faire. Et lorsqu'on a une bonne culture de soccer dans un pays, ben tout devient possible pour la suite des choses.
Et malgré le petit pays qui est la Croatie, ben ce pays-là rentre dans un club sélect de formation nationale qui atteigne la finale de la Coupe du Monde.
Voilà, la Croatie devient le 13e pays à se qualifier pour une Coupe du Monde, à la 21e Coupe du Monde. Donc, il y a eu une quarantaine de finalistes. La Croatie ben, en fait partie et ça donne une idée de disons, une pleine mesure de l'exploit qu'ils ont accompli. Parce que la Coupe du Monde n'aime pas le nouveau. La Coupe du Monde n'aime pas le changement. Là. Historiquement parlant, il y a un club très sélect. Il y a 5-6 pays au cours des dernières années qui se sont qualifiés avec un invité, un petit nouveau par-ci, par-là, de temps en temps. Mais c'est très rare. Et les petits nouveaux, ce sont quand même de grandes nations. On peut penser à l'Espagne, d'ailleurs, qui s'est qualifiée pour sa première finale en 2010, l'emportant, justement, en Afrique du Sud. Donc, ça donne une idée à quel point c'est difficile, ou c'était difficile, du moins, par le passé, de se rendre jusqu'à une grande finale d'une Coupe du monde de soccer.
Dis-moi, Arcadio, as-tu rencontré quelques malheureux qui t'ont dit « Ah, la Croatie sera fatiguée pour cette finale face à la France?
» c'est un discours que je vois beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de partisans français qui essaient de se convaincre que ce sera un match, je dirais pas facile, mais que ce sera un match, disons, très prenable pour les Bleus. Et c'est vrai qu'en termes de qualité sur papier, la France est largement favorite, avec raison. Mais faut jamais prendre ses droites à la légère. Ils ont démontré toute leur résilience, toute leur grinta là, au long de cette Coupe du Monde. Et peut-être qu'ils vont arriver un petit peu plus fatigués à cette finale que les Français, c'est pas possible. Mais en même temps, c'est une finale, ça se joue avec le cœur, ça se joue avec les jambes, ça se joue avec la tête. Et je pense que de ce côté-là, sur 90 minutes, l'avantage ne risque pas d'être si énorme que ça pour les Français. Et il faut dire aussi, on parle du physique, mais le psychologique, la dureté mentale de cette équipe croate, elle est assez incroyable. D'être revenu de l'arrière 3 fois en phase éliminatoire pour finalement remporter ces 3 matchs-là pour faire leur place en grande finale, 2 fois au tir au but, 1 fois en prolongation, ça en dit long où on se trouve psychologiquement du côté des Croates.
Arcadio, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour parler du jeu physique de la Croatie. On les sent extrêmement impliqués physiquement. On devra surveiller, par contre, dans cette finale face à la France pour pas, justement, être désavantagé soit par carton ou par faute directe qu'on pourrait donner à l'équipe française.
C'est vrai. Et en même temps, la bonne nouvelle pour la Croatie, c'est que l'arbitre désigné pour ce match-là, Nestor Pitana, l'Argentin, le même qui avait officié le match Uruguay-France. Et on se souviendra là, que les Uruguayens ne se sont pas gênés pour bousculer physiquement les joueurs français. Et les Français devront un peu, augmenter leur niveau d'engagement physique s'ils ne veulent pas être dépassés à ce niveau-là, parce que les arbitres sud-américains ont tendance à laisser jouer, là. Donc, de ce côté-là, comme on l'a vu d'ailleurs lors du duel contre l'Uruguay, on n'aime pas trop intervenir dans le jeu quand ça se pousse un peu, quand il y a des fautes qui sont de caractère physique, on a tendance à ne pas les appeler. Alors, la France, elle aurait intérêt, selon moi, à augmenter justement son niveau d'engagement à ce niveau-là pour pas savoir, pour perdre, disons, le rythme de ce côté-là.
Bon, on a beau se faire des peurs aussi là avec la Croatie, mais dans les 5 derniers matchs entre les deux pays, c'est 3 victoires, 2 nuls en faveur de la France. Veux pas, on est obligé de dire que la France a de bonnes chances de gagner ce match-là.
Ben, c'est sûr. La France, même sans le bilan historique, la France, elle a toutes les chances de gagner ce duel-là. C'est selon moi, la meilleure équipe de cette Coupe du monde. Elle a démontré toute sa qualité. Elle est allée en crescendo après une phase de groupe un peu décevante. Elle a su augmenter le rythme et trouver son rythme au bon moment. Et c'est sûr que le bilan a tendance à être du côté des Français, mais aujourd'hui, je pense que on part les compteurs à 0. C'est une finale de Coupe du Monde. Peu importe c'est quoi le bilan par le passé, l'équipe qui gagne dimanche sera la grande gagnante historiquement là, de ce duel, ça c'est certain.
Mais écoute, ça sera un match évidemment qui sera regardé partout sur la planète. Arcadio, juste te donner quelques chiffres. Là. Dans un texte qui s'appelle « Le foot va-t-il exploser? », on dit que la finale de 94 a attiré 100 millions de téléspectateurs et 20 ans plus tard, en 2014, c'est 3 milliards de personnes qui ont regardé la finale de la Coupe du Monde. T'imagines comment ce sport-là est planétaire?
Ah, c'est incroyable et ça te donne une idée, ça revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure, à l'ère de la globalisation, à l'ère d'Internet, à l'ère où tous les gens ont accès à l'information, où les gens de n'importe où dans le monde savent qui est Lionel Messi, qui est Cristiano Ronaldo, maintenant ils savent qui est Luka Modric, ils savent qui est Kylian Mbappé, et c'est comme ça que le foot fait sa place un peu partout dans le monde, et ça fait juste donner une idée à quel point le sport universel est plus universel que jamais.
Maintenant, tout le monde sait qui est Arcadio Marcuzzi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Arcadio. Merci. Bonne finale.
Merci, Jérémy. Toujours un plaisir.
Maintenant, vous ne voulez pas rater cette grande finale de dimanche entre la Croatie et la France à la Coupe du Monde. Maxime Sarrazin, notre journaliste Cogeco Nouvelles, a répertorié les lieux pour assister à ce match important. Maxime est avec nous. Salut!
Salut, Jérémy.
Bon, Maxime, à Montréal, si on prend pour la France, où on va?
Ben, si on prend pour la France, on va se diriger sur la rue Saint-Denis au 41-71. Ça, c'est le quartier général, c'est le Barouf. Vous pouvez aussi vous rendre du côté de Monsieur Ricard sur l'avenue du Parc au 45-43. Encore une fois, belle ambiance, ça va être sympathique. Et si vous voulez un petit endroit à découvrir sympathique, qui va relativement être plein, on s'entend, mais où vous allez peut-être avoir une chance de vous asseoir, c'est du côté du bar-café Le Boudoir. Et ça, c'est au 850 avenue Mont-Royal-Est. Vous pouvez aussi vous diriger du côté de la taverne Les Torchés, qui est au 74 avenue Mont-Royal. Ça, c'est un bar qui n'aura pas d'allégeance. Donc, vous allez voir des gens là, qui vont avoir des allégeances pour à peu près autant la Croatie que pour la France. Et il y a aussi, bien sûr, la taverne modèle 1909 du côté du Centre Bell. Alors, si vous êtes plus du côté du Centre Bell, c'est l'endroit où vous pouvez vous diriger, où il y a le plus de télévision et d'écrans géants.
Et pour la Croatie, si on veut prendre la Croatie?
Croatie, ça, c'est intéressant. Il y a l'église Saint-Nicolas-Tavlik, qui est vraiment le quartier général des Croates. C'est sur la place de la Savane, donc tout près des caries et de la savane. C'est dans le sous-sol d'une église et là, vraiment, vous allez voir l'ensemble des fervents croates qui vont être présents. Moi, je vous suggère d'aller jeter un œil si vous aimez cette équipe.
Et qu'est-ce qui se passe au Parc Jean-Drapeau, juste?
Gros match en plein air. Ça, c'est super intéressant. On va rendre disponible le match sur écran géant. On va avoir des milliers de personnes qui vont être disponibles pour dans le cadre des week-ends du monde du Parc Jean-Drapeau. Vous pouvez bien sûr y aller en métro. C'est le transport idéal. Ça ouvre à 10h et le match, bien sûr, sera diffusé dès 11h.
Est-ce qu'on fait quelque chose du côté de Québec?
Oui, ça, c'est super intéressant. C'est devant l'Assemblée nationale, en fait, c'est l'organisation du Festival d'été de Québec qui a rendu la scène disponible. Toutefois, on va permettre aux gens d'arriver un petit peu avant 11h, j'ai l'impression, mais c'est seulement les 2500 premières personnes qui vont pouvoir avoir accès au site. Alors, soyez là tôt le matin si vous voulez pouvoir accès à cette grande scène du Festival d'été de Québec.
Et un peu partout à travers le Québec, j'imagine, dans les différentes cages au sport, là, on va présenter les images, ça c'est sûr et certain.
Effectivement, que ce soit en Outaouais, Trois-Rivières ou du côté de Sherbrooke, les cages au sport vont le présenter. Il y a certains bars aussi, vous pouvez vous informer, là, entre autres en Outaouais, il y a le bar sportif La Zone sur Maloney qui le présente. Et si je me trompe pas, du côté de Sherbrooke, le bar Stanley, mais ce sera seulement en image.
En terminant, tu as vécu l'expérience lors de la demi-finale, tu étais au Barouf. Parle-moi de l'ambiance, je te donne 10 secondes pour nous résumer pourquoi il ne faut pas manquer cette finale-là.
Écoute, ambiance endiablée. Lorsque la France a marqué, on a eu l'impression que le toit allait littéralement s'envoler. Si vous voulez être sur place, recevoir de la bière sur vous, puis voir les gens s'envoler, il faut être dans un bar sportif. Mais sinon, si vous êtes à la maison, invitez papa, maman, les enfants, les amis, faites-vous ça en famille, puis à 11h le matin, là, c'est un petit brunch. Là. Rien de mieux que ça aussi.
Maxime Sarrazin, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Maintenant, pour bien comprendre l'ampleur de cette finale à la Coupe du Monde, écoutez bien un texte fort intéressant, ça s'intitule « Le foot va-t-il exploser? » C'est une étude qu'on a faite, entre autres TF1 nous dit que la demi-finale qu'elle a présentée en France, cette demi-finale entre France et Belgique, a attiré en moyenne 19 millions de téléspectateurs, une pointe à 22,3 millions de téléspectateurs. Mais à travers la planète, la finale de la Coupe du Monde en 94 a attiré 100 millions de téléspectateurs. 20 ans plus tard, 2014, 3 milliards de personnes. Il y a beaucoup d'argent là-dedans, mais énormément d'argent. Les 5 plus grands championnats en Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre, ça donne 98 équipes. Au début des années 2000, ces 98 équipes-là avaient un budget total avoisinant les 2,3 milliards. En 2008, 8 ans plus tard, 7,9 milliards de dollars. 10 ans plus tard, 2017-2018, 18 milliards de dollars pour ces 98 formations composant les 5 plus grands championnats. Comme quoi, il y a de l'argent à faire avec le soccer. On s'arrête quelques instants, au retour, le deuxième plus long match de l'histoire de Wimbledon, un duel de 6h30 minutes. Tous les détails avec Hélène Pelletier.